Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Mardi, art et culture, rencontres, promenades, découvertes.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Ce mardi, et comme toute la semaine dans Au flux et à mesure, on parle de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, zoom sur la mémoire collective que porte le 17 octobre 1961 avec Laurence de Kock, historienne, professeure et membre du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, et Gilles Manceron, historien et spécialiste du colonialisme français. La rencontre est animée par Tristan Goldbrand. Bonne écoute.
Qu'est-ce que vous voulez que je pense? On a voulu purifier
la place de la République de ma présence. Il a dit quoi?
Oh non, éteins-moi ça, on dirait France Culture avant la messe.
Mais oui papa, mets plutôt la chaîne Penser les luttes de Radio Parleur, il n'y a que de l'intello frais.
D'accord.
Penser les luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée raciste.
Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Penser les luttes, votre podcast pour penser et réfléchir ensemble les mouvements sociaux d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un rendez-vous avec l'histoire, celle de milliers d'Algériens et d'Algériennes qui, un soir d'octobre 1961, sont descendus dans les rues parisiennes à l'appel du Front de Libération Nationale. Un appel pour manifester pacifiquement contre le couvre-feu qui leur était imposé depuis le 5 octobre. Noyés, mitraillés, matraqués par la police parisienne, ces milliers de Français et de Françaises musulmans d'Algérie, comme on les appelle alors, vont être les victimes de la plus grande répression contre une manifestation en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une répression brutale, violente et sanglante, un silence traumatique. L'histoire les a oubliés pendant des années. Ce soir, se penser les luttes leur est dédié.
Enfin, quelque chose se passe!
Penser les luttes.
Penser les luttes.
Quelque chose, mais quoi?
Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
Il faut arrêter de parler en notre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler. On est assez grand pour prendre la parole. On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
Une émission pour penser ensemble. Les mouvements sociaux.
Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
Ce dimanche 17 octobre 2021, la diaspora algérienne s'était donné rendez-vous devant le cinéma Le Grand Rex sur le boulevard de Bonne Nouvelle à Paris. Un rassemblement pour commémorer le 60e anniversaire d'une tuerie qui fit plusieurs dizaines de morts. Au-dessus des têtes, une pancarte « Massacre colonial à Paris, vérité et justice ». La veille, au pont de Beson, le président de la République Emmanuel Macron s'était lui aussi incliné devant la mémoire des victimes. Le chef de l'État avait évoqué les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon, le préfet de police de l'époque. Des crimes inexcusables pour la République. Voici un récit de ce 60e anniversaire dressé par le journaliste Frédéric Bobin pour le journal Le Monde. Mais que s'est-il réellement passé ce soir du 17 octobre et pourquoi un si long silence? Comment ce passé colonial pèse-t-il aujourd'hui encore sur la vie politique française? Octobre 1961 à Paris, on en parle ce soir avec nos invités et comme d'habitude ça commence avec un petit son d'introduction, c'est parti.
17 octobre 1961, 20h30. Venus des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine.
Ils ont jeté les vieux. D'abord, il y a pris nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans la noire. Ils ont jeté nous cinq dans l'eau.
Bilan officiel, 3 morts, 64 blessés. Aujourd'hui, les historiens avancent les chiffres de 200 morts, 400 disparus, 11 500 arrestations. La version de Maurice Papon est bien différente. Hier, l'ancien préfet de police estimait à 15 ou 20 le nombre de victimes. Et encore, selon lui, s'agissait-il de règlements de comptes entre factions algériennes.
Allez, prenez le programme !
Radio Paris.
Un extrait du journal télévisé de France 2, c'était à l'époque du procès de Maurice Papon en 1997 devant une cour d'assises à Bordeaux. Maurice Papon, c'est le nom du préfet de police de l'époque qui officia dans la capitale le soir du 17 octobre 1961. C'est un nom qui reviendra dans cette émission et pour parler plus précisément de ce qui s'est joué dans les rues de Paris cette nuit-là, je me tourne vers mes invités. Ils sont tous les deux membres du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire et présents. Grâce à la magie de l'Internet. Laurence Decocq, bonsoir.
Bonsoir.
Laurence Decocq, vous êtes historienne et enseignante. Vous êtes impliquée depuis le milieu des années 2000 dans les débats publics concernant les utilisations médiatiques et politiques de l'histoire et en particulier du fait colonial en France depuis le 19e siècle. Vous êtes notamment l'autrice de plusieurs ouvrages et en particulier un ouvrage sur l'enseignement de l'histoire publié aux éditions Libertalia. Gilles Manceron, bonsoir.
Bonsoir.
Gilles Manceron, vous êtes historien et spécialiste du colonialisme français, ancien rédacteur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme, Homme et Liberté. Et parmi les nombreux livres que vous avez publiés, il y a Algérie, Comprendre la crise aux éditions Complexe ou encore Les Harkis dans la colonisation et ses suites aux éditions de l'Atelier. Gilles Manceron, on est en 1961. La première question de cette émission, elle est pour vous. Ça fait 7 ans que la guerre pour l'indépendance de l'Algérie a débuté. Dans quel contexte vivent exactement les Français musulmans d'Algérie en ce 17 octobre 1961 ?
Il y a plusieurs centaines de milliers d'Algériens en France. Leur nombre a augmenté au fil de la guerre. C'était logique, hein, les gens ayant tendance à fuir les pays en guerre, un peu partout, quels qu'ils soient. Et donc, ces centaines de milliers, il y en a au moins la moitié sur ces environ 400 000, difficile à savoir, sur la totalité du territoire. Au moins la moitié sont en région parisienne. C'est un fief de l'immigration algérienne organisée. Elle l'a été d'abord dans le cadre de l'étoile nord-africaine qui est devenue le PPA pour partie du peuple algérien, MTLD, et puis ensuite au moment du 1er novembre 1954 il y a eu le FLN qui a constitué une fédération de France et cette fédération de France a, au prix d'un affrontement avec les messalistes, les partisans de Messaliach, a très vite contrôlé le terrain, si je puis dire, et collecté l'impôt auprès des travailleurs algériens, impôt qui est vital pour la lutte du FLN en Algérie, parce que ça permet d'alimenter les caisses du FLN par des transferts de fonds, par différents moyens, dont ce qu'on appelait les porteurs de valises, vers la Suisse ou d'autres frontières. Et à ce moment-là, ça pesait lourd dans le paysage de la guerre d'Algérie, cette immigration algérienne en France organisée par le FLN.
Laurence Decocq, cette immigration algérienne en France, justement, elle va se mobiliser à travers une manifestation qui se veut pacifiste. C'est une démonstration de force. Dans le contexte colonial de l'époque et à quelques mois hein, de l'indépendance, de la ratification des accords d'Évian, qui viennent mettre fin à une guerre de 8 ans, comment on peut expliquer un événement qui va être aussi violent ?
D'abord, ça s'explique par la violence structurelle inhérente au fait colonial, c'est-à-dire qu'il y a dans l'acte même de colonisation l'idée d'une certaine forme de gratuité des exactions militaires ou policières sur des personnes qui sont considérées encore comme des indigènes et comme des sous-citoyens. Donc, la brutalité de la répression du 17 octobre, elle s'explique à la fois par, on va dire, un répertoire d'actions qui est typiquement coloniale, et puis aussi par une très longue histoire du maintien de l'ordre en France, voilà, qui consiste, et surtout évidemment avec, avec quelqu'un comme Maurice Papon chargé de l'organiser, qui consiste à réprimer aveuglément toute forme de contestation, a fortiori, lorsque le pays est considéré comme en guerre, et il l'est, hein, puisqu'on est, vous l'avez rappelé, encore en pleine guerre d'Algérie. Donc il y a une double tradition, hein, la tradition de la répression, du maintien de l'ordre et de la répression qui est typiquement française, hein, qu'on a vu à l'œuvre aussi bien avant cet épisode-là, et même avant d'ailleurs la colonisation. Et puis elle est doublée du répertoire d'action typiquement colonial.
On est dans ce contexte de guerre, effectivement, notamment au niveau des agents de police de la préfecture de police de Paris. Il y a vraiment l'idée que c'est notamment ce qu'on appelle les fédagas, les combattants algériens, qu'ils vont être présents. Il y a cette rumeur qui court très rapidement parmi les effectifs de police que des fédagas vont être présents parmi les manifestants.
Il y a effectivement un rôle à partir de septembre 1961 exercé par le préfet de police à l'égard des troupes de la police parisienne, avec des fonctionnaires de la police parisienne, une incitation très nette de la part de ce préfet d'exercer de la violence contre les Algériens. Et ça commence à partir de la fin août et du début du mois de septembre 61. Et je crois qu'il faut mettre cette date en rapport avec un moment dans les négociations d'Évian, dites d'Évian, qui se concluront à Évian, qui vise à réaliser l'indépendance de l'Algérie. Et cette perspective de l'indépendance, elle n'est pas acceptée par une partie des ministres du général de Gaulle, une partie des députés qui le soutenaient, car ils pensaient en 58 qu'il allait assurer l'avenir de l'Algérie française. Et il est à ce moment en proie à d'abord des tentatives d'assassinat de la part de l'OS, septembre, le premier assassinat à Pont-sur-Seine, d'où il échappe miraculeusement, et puis d'autre part, de la défection d'un certain nombre de ses ministres. Et c'est là où, à mon avis, le rôle de Michel Debré, le Premier ministre, doit être pointé, dans la mesure où il a obtenu la nomination d'un ministre de l'Intérieur, Roger Frey, qui est conforme à ses vœux, et où il peut s'appuyer sur Maurice Papon, le préfet de police de la Seine, pour exciter les policiers à se lancer dans une répression contre les Algériens. À mon avis, c'est ce contexte politique de la fin de la guerre d'Algérie qui explique cette violence qui est paradoxale, qui est presque énigmatique. C'est Pierre Vidal-Naquet qui, il y a 20 ans, en 2000, avait dans une préface dit « c'est une énigme, pourquoi tant de violence alors qu'on se dirige vers la fin ?» Mohamed Harbi, dans ses mémoires, quand il arrive en mai 61 à Genève pour rejoindre la délégation algérienne qui commence à discuter en vue des accords d'Évian, il dit « c'était le plus beau jour de ma vie, mai 61, nous avions gagné ». De Gaulle parlait d'autodétermination, c'est-à-dire en gros d'indépendance de manière un peu édulcorée. Et voilà, on avait gagné, la guerre était finie. En mai 61, disait-il, croyait-il. Or en fait, certains au sein même du pouvoir et aussi de l'armée, hein, d'où le putsch d'avril et puis ses suites, d'avril 61, n'étaient pas d'accord et ont rendu beaucoup plus longue la sortie de guerre, et notamment l'OAS a développé des attentats avant le couvre-feu, le cessez-le-feu, pardon, de mars 61, de mars 62, le couvre-feu du 18 mars 62, et après celui-ci jusqu'à l'indépendance. Voilà, il y a eu une sortie de guerre extrêmement tendue, et à mon avis, le 17 octobre 61 et sa violence doivent être resitués dans une forme de refus, de difficulté à mettre fin à la guerre d'Algérie.
Et l'OAS, hein, on le précise pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est l'organisation de l'armée secrète. C'était une organisation paramilitaire favorable à l'Algérie française. Gilles Manceron, vous êtes né en 1946, vous avez une quinzaine d'années à l'époque de ce 17 octobre 1961. Vous vous souvenez justement de cet événement, de l'écho de cette violence qu'il y a eu dans les jours qui ont suivi ?
Eh bien, écoutez, j'avais 15 ans, j'étais en classe de seconde d'un lycée parisien. Je me souviens quelques mois plus tard de la manifestation de Charonne, parce que des amis d'amis, des plus grands qui étaient déjà étudiants, y avaient participé et on en avait beaucoup parlé. Et bien sûr, les 9 morts de Charonne ont fait beaucoup de bruit, ont fait la une des journaux et ont provoqué le lendemain, enfin quelques jours plus tard, une immense cérémonie d'obsèques dans les rues de Paris. Donc c'était un événement majeur, Charonne, en février 62, mais je ne me souviens pas avoir entendu parler sur le moment du 17 octobre 61. J'entendais parler d'une période tendue avec des attentats. Il y avait déjà les attentats de l'OAS, hein, mais il y avait des Algériens qui étaient retrouvés morts à certains endroits, etc. Mais pas d'un événement majeur le 17 octobre 61. C'est passé inaperçu de la majeure partie des Parisiens, quoi.
Laurence de Kock, c'est une tuerie unique dans l'histoire de la France métropolitaine du XXe siècle. On l'a dit tout à l'heure en introduction de cette émission, la plus grande répression contre une manifestation en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourtant une bataille contre l'oubli qui va marquer cette manifestation du 17 octobre 1961.
Gilles a bien dit effectivement que ça lui est, en tout cas, il s'en souvient comme quelque chose qui est passé inaperçu. C'est compliqué quand on travaille sur la mémoire parce que nos propres mémoires aussi sont reconstruites par du politique. Et les travaux qui ont eu lieu sur le massacre du 17 octobre ont aussi bien montré comment il avait été enfoui par le massacre de Charonne. Le massacre de Charonne du 8 février 1962 a immédiatement été travaillé sur le plan mémoriel et sur le plan politique, notamment par des partis ou des syndicats de gauche. Il a immédiatement été commémoré. Et ce qui est intéressant donc, c'est que ce massacre du 17 octobre 1961, lui, même s'il a eu des échos dans la foulée, hein, parce que ce serait faux de dire que les médias n'en ont pas parlé le soir même et le surlendemain, en revanche, il n'a pas eu cette espèce de durabilité que permet d'avoir un événement lorsqu'il est justement immédiatement commémoré, immédiatement travaillé par des groupes politiques ou par des groupes syndicaux. Donc c'est aussi pour ça que cet événement a été enfoui et qu'il a fallu effectivement un certain temps pour qu'il soit excavé. Et c'est ce que vous avez, à juste titre, appelé une bataille pour le sortir de l'oubli.
On va en parler plus précisément dans quelques instants. Ce sera juste après cet extrait du journal Info de TV5 Monde. C'était en janvier 2021.
145 pages pour sortir du déni et du non-dit. L'historien Benjamin Stora remet au président Macron son rapport sur la colonisation et la guerre en Algérie dans une démarche de reconnaissance des exactions commises par la France. Principale recommandation, la mise en place d'une commission mémoire et vérité chargée d'apporter des réponses concrètes à 22 dossiers épineux.
Ce n'est pas simplement idéologique, ce n'est pas simplement des discours qu'on prononce, des mots fétiches qu'on prononce, mais des actes, c'est-à-dire ouvrir des archives, identifier des lieux, chercher des disparus, entretenir des cimetières. Ce sont des choses qui sont très simples, très pratiques, très évidentes, mais qui sont autant de contentieux, de problèmes très lourds entre la France et l'Algérie.
La guerre d'Algérie concerne directement un habitant sur 10 en France. Les anciens soldats, les pieds noirs, les harkis, les immigrés algériens et leurs enfants. Pour Benjamin Stora, il est essentiel de faire dialoguer les mémoires, que tous puissent enfin se comprendre, en France, mais aussi en Algérie, où le souvenir de la guerre reste vif.
La France a torturé, elle a persécuté, notamment en effectuant des essais nucléaires sur le peuple algérien. En tant qu'Algériens, nous devons dénoncer cette position. Et la France doit reconnaître ses crimes, les meurtres, la torture et les déplacements forcés du peuple algérien.
Outre la poursuite du travail de restitution des corps de martyrs vers l'Algérie, comme cela s'est fait l'été dernier, Benjamin Stora préconise également des gestes plus symboliques, avec notamment la reconnaissance de l'assassinat par la France du militant algérien Ali Boumendjel, ou encore l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, grande figure de l'opposition à la guerre d'Algérie. La France promet des mots et des actes dans les prochains mois, mais pas question pour l'Élysée d'exprimer regrets ni excuses.
Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
Des mots et des actes. Il avait été commandé en juillet 2020 par l'Élysée pour réconcilier les mémoires autour de la colonisation et de la guerre en Algérie. Le rapport de l'historien Benjamin Stora a été remis en janvier 2021 au président Emmanuel Macron. La mémoire, elle va occuper une place centrale dans nos échanges au cours de cette émission. Mais avant d'aborder le travail actuel de Benjamin Stora, Gilles Manceron, on va rester quelques dizaines d'années en arrière. Comment va se constituer la mémoire, non pas immédiate de l'événement, mais celle qui va suivre dans les années 70, 80, 90. Est-ce qu'il va exister des récits, des ouvrages de l'événement, un travail de recherche notamment par les historiennes et les historiens?
Oui, la mémoire de cet événement va émerger lentement plus de 30 ans plus tard, environ une trentaine d'années plus tard. Elle commence à ressortir à travers des travaux, des publications et des ouvrages, des films documentaires. Donc, mais avec beaucoup de lenteur, car une version officielle mensongère a été immédiatement diffusée au lendemain de l'événement lui-même. Et il est vrai qu'on en parle un peu dans la presse, mais on le présente, cet événement, de manière mensongère. On dit que des tirs d'armes à feu ont opposé des militants du FLN aux policiers. Or, c'est complètement faux. Et on dit qu'il y a eu deux morts algériens, plus un mort français accidentel qui traversait les grands boulevards, et c'est les deux seules victimes qui sont reconnues. Et ça, ça va être maintenu comme bilan pendant 30 ans, jusqu'aux années 80, par exemple les mémoires de Maurice Papon qui paraissent au milieu des années 80, les chevaux du pouvoir, eh bien, reprennent ce bilan. Michel Debré, dans ses propres mémoires, toujours pareil. Donc, un mensonge d'État pendant une trentaine d'années, mettons 25 ans au moins. Et petit à petit, des premiers ouvrages apparaissent. Michel Levine, qui ne fait absolument aucun bruit, qu'il est un ouvrage sur ce massacre par un responsable du service juridique de la Ligue des droits de l'homme, Michel Levine, il passe totalement inaperçu. Et ensuite, alors il faudra attendre les ouvrages de Jean-Luc Enaudi, qui n'est pas un historien universitaire, qui est un éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, et qui est, pour des raisons militantes, confronté à des témoignages. Donc il publie des ouvrages qui dénombrent de premières listes de victimes et rapportent un certain nombre de faits, qui sont des instruments de travail, si je puis dire, pour les historiens, qui ne sont pas des travaux historiques en tant que tels, mais qui font œuvre pour l'histoire de manière décisive. Parce que la presse, une partie de la presse, leur fait écho. Je pense au quotidien Libération, qui publie des choses aussi, et malgré les tentatives de contre-feu, je pense à l'ouvrage de Jean-Paul Brunet, qui lui était un historien universitaire, qui conteste ce bilan, eh bien, la presse va finalement, et le monde de l'édition, les éditions Fayard vont publier les livres de l'édition du Seuil, et l'édition Fayard vont publier les livres de Jean-Luc Enaudi. Donc, la presse et l'édition jouent un rôle, y compris le service public, à partir des années 80. Parce que autant François Mitterrand ne tient pas du tout à faire œuvre de vérité sur cette période de l'histoire, autant le contexte de l'audiovisuel après 81 donne des perspectives, ouvre des brèches. Et c'est ainsi que Gérard Trillard, par exemple, fait un premier reportage sur la télévision Antenne 2 de l'époque, avec les larmes aux yeux. C'était un journaliste cégétiste communiste, mais qui avait un souvenir personnel de l'événement. Et on commence à en parler, y compris sur le service public de radio et de télévision.
Laurence de Kock, les archives policières et judiciaires, elles permettent de démontrer que l'État a dissimulé le massacre du 17 octobre, comme le disait Gilles Manceron à l'instant.
On n'a pas besoin de ça pour permettre de voir que le mensonge, que le massacre d'État a été dissimulé. Puis il suffit de voir comment la presse en a parlé dans les médias. Et Gilles Manceron a rappelé dans sa chronologie, effectivement, comment s'est installé un récit de ce massacre qui a minimisé totalement, pour ne pas dire invisibilisé, la réalité de ce massacre. Les archives en question, elles permettent surtout de restituer la vérité des faits. Ce sur quoi aussi je voudrais compléter le discours de Gilles, c'est que en réalité, c'est assez tôt, entre guillemets, que ce massacre rejaillit sur le plan mémoriel, et il a raison de le dire, surtout dans la presse, puisque la première double page sur la mémoire du 17 octobre 1961, c'est en 1980, et c'est dans Libération. Donc, 1980, il y a une vraie double page où il est question du peuple des bidonvilles qui est descendu sur les boulevards. L'année d'après, il y a à nouveau trois pages, je crois, entières dans l'Humanité, donc 1981. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fait pas mouche? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça n'installe pas un anniversaire et une commémoration du 17 octobre, on va dire, quasi officielle dans l'espace public? Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement la question du 17 octobre qui est invisibilisée, c'est celle de la guerre d'Algérie tout entière. Et ce massacre du 17 octobre, il n'a pas pu s'installer comme un objet de revendication mémorielle tant que la guerre d'Algérie dans son ensemble n'a pas été installée dans l'espace public comme un objet de revendication mémorielle. On pourra y revenir, mais c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est dans les années 90 que ça décolle à ce point. C'est dans les années 90 que le militantisme mémoriel commence à vraiment s'institutionnaliser. Et puis, c'est au début des années 2000 où là, véritablement, la question de la guerre d'Algérie est à nouveau sur le devant de la scène sur le plan mémoriel, notamment à travers la question de la torture. C'est là qu'en 2001, on va assister à un vrai militantisme mémoriel, on va dire, pour la reconnaissance du 17 octobre comme un massacre d'État. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est très difficile d'inscrire dans une politique mémorielle un événement si on le déconnecte en fait de tout son environnement historique et politique, à savoir la guerre d'Algérie dans son ensemble. Et juste pour terminer sur la question des archives, mais je pense que Gilles en parlera beaucoup mieux que moi, parce que moi, je n'ai pas dépouillé les archives du 17 octobre 1961. Moi, j'ai vraiment plutôt travaillé sur sa mémoire et surtout sur son enseignement. Je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt un problème de fermeture des archives que d'ouverture des archives.
Question absolument.
Sur le contexte international peut-être, Gilles Manceron, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, au moment où il va prendre la parole devant l'Organisation des Nations Unies à New York en novembre 1961, il ne va pas parler de ce massacre, de cette répression. Est-ce que c'est quelque chose qui a été porté aussi par le FLN, par le GPRA, dans son discours, cette mémoire, ce combat aussi pour faire apparaître la répression qui a eu lieu le 17 octobre, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui a été en partie occulté?
Ben, c'est quelque chose qui a été aussi occulté pour des facteurs qui renvoient à la politique algérienne et à l'histoire du Front de Libération Nationale et du GPRA et de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, puisque c'est la Fédération de France du FLN qui a organisé cette riposte. C'était un événement français, si je puis dire, dans l'espace français et parisien, et il y a à l'été 62 une sorte de mini guerre civile qui s'esquisse entre les partisans du GPRA présidé par Benoussef Bentreda et puis les partisans de l'armée des frontières auxquels Ahmed Ben Bella s'était allié et qui septembre 62 vont s'installer à Alger, vont chasser Bentreda, qui avait pourtant proclamé quelques semaines auparavant la République algérienne dans la capitale, et s'y installer. Et donc, il y a un contexte d'affrontement interne au FLN, dirons-nous, et qui divise les vilayas. Et la Fédération de France est majoritairement favorable au GPRA, à la légalité, si je puis dire, des institutions de la révolution algérienne et ils votent des motions disant on n'a pas fait 8 ans de guerre pour avoir l'armée au pouvoir à la proclamation de l'indépendance dans notre pays. Donc c'est un événement qui ne va pas être mis en avant, loin de là, c'est un euphémisme, par le pouvoir algérien, d'abord Ben Bella Boumediene hein, jusqu'en 65, puis Boumediene tout seul par la suite, qui s'installe dans la, et qui construit l'Algérie indépendante. Cette mémoire de l'immigration, elle sera hors regard, hors mémoire de l'Algérie officielle indépendante.
Laurence de Coq, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi eu des massacres dans d'autres zones du globe au moment des empires coloniaux. Il y a eu Sharpeville en Afrique du Sud, il y a eu la Tunisie, le Maroc dans les mêmes années. À l'échelle des empires coloniaux, les foules qui défilent pour faire valoir leurs droits ou réclamer leur indépendance, elles se heurtent à des répressions armées de la part de l'État. On voit aussi quelque part que ce 17 octobre, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une énigme, en fait, ça s'inscrit aussi dans un répertoire répressif courant.
Oui, c'est ce que je vous disais en début d'émission, c'est vraiment un massacre qui, de ce point de vue-là, est typiquement colonial. Vous avez raison d'en avoir fait une liste non exhaustive et souvent non reconnue. Celui de Tunisie, par exemple, au Cap Bon en 1952, est un massacre particulièrement violent, et qui ensuite a été invisibilisé par ce qui s'est passé ultérieurement en Algérie. Mais pour anecdote, par exemple, parce que ça, en revanche, les archives de la Tunisie, je les ai regardées pour un travail dans une autre vie. Pour anecdote, par exemple, en 1954, alors que Vincent Auriol, qui était président de la République à l'époque de la 4e République, reçoit, je ne sais plus qui d'ailleurs, dans son bureau, et puis il regarde ce qui se passe en Tunisie, il est affolé par la violence de ce qui se passe en Tunisie, et il dit à son interlocuteur « Heureusement que l'Algérie est calme ». Donc, c'est pour vous dire à quel point, effectivement, on a oublié comment dans d'autres colonies, la répression d'État a été particulièrement violente, surtout de la part des Français. On peut aussi citer, bien sûr, le massacre de Sétif et Galma, les massacres de Sétif et Galma le 8 mai 45. Voilà, il y a quelque chose, en effet, dans le fait colonial lui-même, qui autorise les puissances colonisatrices à mobiliser cette violence avec cette idée que ce ne sont pas véritablement des êtres humains qu'ils ont en face d'eux. Hein. Et donc, évidemment, ça facilite aussi l'idéologie répressive hein, d'avoir ce sentiment d'avoir en face de soi des êtres primitifs qu'il faut civiliser, y compris par les armes. Quoi. Voilà.
Ce 17 octobre 1961, il appartient de cette façon aussi à une histoire internationale, pas seulement française. Gilles Manceron, dans quelle mesure oui. On peut parler de crime d'État ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'abord peut-être un crime d'État ?
Alors un crime d'État, je ne sais pas ce que les juristes en pensent du point de vue, c'est une notion qui est discutée parce que ce n'est pas une notion juridique. Hein. Crime contre l'humanité, par exemple, c'est une notion qui a été formulée juridiquement et reprise dans la base, par exemple, dans le traité servant de base, le traité de Rome qui sert de base à la Cour internationale de justice. Mais crime d'État, oui, dans la mesure où cet État est responsable de cette répression. En ce qui me concerne, pour avoir travaillé sur cet événement, et y compris avoir continué à le faire, par exemple, depuis les publications qu'on a faites il y a une dizaine d'années, en 2011, j'avancerai que certains au sein de l'État sont plus responsables que d'autres, si je puis dire. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice qui a remplacé à la demande de Debré Edmond Michelet, hein, le préfet de police de la Seine. Bon, mais le chef de l'État lui-même choisit de faire silence. Alors, on pourra remettre dans le contexte, dire qu'il était obligé parce que l'OAS essayait de le tuer et qu'il ne voulait pas que tout son groupe parlementaire UNR le lâche et que tous ses appuis lui fassent défaut. Mais en tout cas, l'État est responsable. Mais moi, je pense qu'il faut aussi aller plus loin dans ce silence et dans ce déni. Il y a un crime d'État, bien sûr, mais il y a aussi un silence de la société française, voire des institutions algériennes, qui contribuent à ce déni extrêmement long, parce que quand même 60 ans, c'est quand même énorme. Et pourquoi ? Eh bien, la gauche française, alors on a parlé du phénomène Sharon, de la mémoire de Sharon qui se superpose et qui, encore ces derniers temps, des gens, quand on leur parlait du 17 octobre, disent « tu me parles de Sharon ?» des Parisiens, enfin bon. Donc, il y a une superposition des deux phénomènes. Il y a un problème de la gauche française par rapport à cette lutte d'indépendance algérienne, et il y a un problème aussi de la politique algérienne au sein du même du FLN, qui ne tenait pas à ce que ce rôle joué par l'émigration en France soit vraiment remis à sa juste place, d'une manière générale.
Le rapport Stora préconisait justement une commission vérité et mémoire sur le passé algérien de la France pour lutter contre cet aveuglement. Les mois ont passé et à ce jour, l'Élysée n'a pas donné suite à ce projet, Gilles Manceron.
Ben écoutez, on va voir. Il circule sous le manteau, si je puis dire, des listes de membres de cette future commission dont on nous dit après coup, ah ben non, finalement, un tel n'en fera pas partie, mais un tel oui, etc. Bon, on verra bien ce qui va sortir du chapeau d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Stora n'est qu'un quelqu'un qui propose des choses, et peu de ses propositions n'ont été juste là, jusqu'ici, réalisées. Il y a eu la réception des petits-enfants d'Ali Boumendjel. Mmh. Bon, il n'y a pas eu la panthéonisation à ce jour de Gisèle Halimi, qui était pourtant réclamée dans le rapport Stora, mmh. et soutenue par beaucoup d'autres. Et donc, ça avance très lentement. Et ce qui a été publié sur le site de l'Élysée le 16 octobre dernier n'est pas satisfaisant, parce que Papon est nommé, on ne dit même pas sa responsabilité à l'époque de préfet de police, et on ne parle pas d'autres responsables.
On va parler de ce communiqué, voilà. Mais vous l'avez relevé, effectivement, il y a une certaine tiédeur de la part de l'Élysée, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir sur Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de ce 60e anniversaire. Des espoirs, notamment parce que Emmanuel Macron était aussi le premier président français à être né après l'indépendance algérienne, et puis surtout parce qu'il avait jusqu'ici pris plusieurs initiatives, vous l'avez dit, pour affronter d'une certaine façon cet héritage si longtemps passé sous silence dans le cadre de cette guerre, en campagne électorale, notamment lors d'une visite à Alger en 2017, il avait notamment dénoncé la colonisation comme un crime contre l'humanité. On va l'entendre.
Le sujet est toujours aussi sensible des deux côtés de la Méditerranée. La colonisation française sur le continent africain et en particulier en Algérie. Une histoire douloureuse qui divise. Le candidat à l'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron, a créé des remous après ses déclarations à la télévision algérienne un peu plus tôt cette semaine. Le fondateur du mouvement En Marche a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Plusieurs responsables politiques dans l'Hexagone dénoncent ces propos et refusent toute idée de repentance. Quelle réaction alors en Algérie. En ligne avec nous depuis Alger, Faisal Metaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour le quotidien El Watan. Les propos d'Emmanuel Macron ont-ils été commentés en Algérie autant qu'en France? Ont-ils été pris au sérieux ou les Algériens considèrent-ils ces propos comme simplement électoralistes?
Enfin, ils sont divisés en deux, en fait. Il y a deux camps. Le premier camp, par exemple, les partis islamistes comme l'Ahdab al-Khalaf du mouvement Al-Adala ou les organisations dites de familles révolutionnaires, entre guillemets, en Algérie, comme l'Organisation des Enfants de Chouhada, des Martyrs, ont bien sûr bien accueilli cette déclaration, parlant que c'était le moment pour les Français de reconnaître, ou la France officielle pour reconnaître les crimes coloniaux. On a évoqué les essais nucléaires français dans le sud algérien. Nous sommes en mois de février, c'était le 13 février 1960. Et on a rappelé pour les partis nationalistes et islamistes que la France n'a toujours pas reconnu ses crimes, n'a toujours pas indemnisé les victimes. Et vous avez un deuxième camp, par exemple, des partis comme le FLN, Front National Algérien, ou le parti islamiste MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, qui pensent qu'il s'agit d'une déclaration courageuse, mais ça peut rentrer dans le cadre d'une campagne électorale, puisque Emmanuel Macron qui a été très bien réussi, a plutôt reçu en Algérie, notamment avec le Premier ministre, il a passé presque 2 heures avec lui, a fait ses déclarations, en fait, c'était la dernière interview avant de quitter l'Algérie. Donc, il a bien choisi le moment pour faire sa déclaration. Et on pense que Emmanuel Macron voudrait, entre guillemets, draguer les Algériens de France pour qu'ils votent pour lui lors de la prochaine élection présidentielle, puisqu'on me dit qu'il y a des propos de campagne électorale. Après, on verra ce que le président, s'il sera élu, va appliquer.
Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
Et vous venez d'entendre un extrait du journal Afrique de France 24. C'était en 2017. Ça, c'était le candidat Macron. Pour le 17 octobre, il faudra repasser le président de la République. Vous l'avez dit tout à l'heure dans cette émission, Gilles Manceron n'a pas pris la parole lors de la cérémonie ce samedi 16 octobre, durant laquelle il a déposé une gerbe tricolore en mémoire des manifestants algériens jetés à la Seine. Il s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué de l'Élysée publié à l'issue de la cérémonie, puis d'un tweet. Il a choisi une forme commémorative brève, surtout sans aucune parole. Un pas de plus vers une réconciliation mémorielle ou une occasion ratée, les avis divergent. Il y a quelques jours, Laurence de Kock, le président de la République avait pourtant fait un premier geste en demandant pardon aux familles de harkis lors d'une cérémonie de commémoration à l'Élysée.
Il y avait en effet beaucoup d'attentes pour plein de raisons, celles que vous avez rappelées sur le fait qu'en effet, à cet égard, Emmanuel Macron apparaissait comme le président qui pouvait assumer ce passé douloureux, parler de crimes contre l'humanité. Il a effectivement accueilli les harkis, vous l'avez dit. Il a fait tout un tas de gestes qui allaient, on va dire, dans le bon sens, et puis poursuivi aussi le travail avec Benjamin Stora, qui, il faut aussi le rappeler, avait été entamé sous François Hollande, hein, lequel avait aussi quand même fait quelques petits pas dans ce sens-là. Et puis, grosse déception. Soyons honnêtes, en réalité, ce n'était pas non plus une énorme surprise vu le contexte actuel et vu l'ambiance aujourd'hui en France et vu à quel point la question du passé colonial s'est littéralement, je ne sais pas comment dire, a été littéralement désormais hystérisée dans les débats publics. Donc, moi, je n'ai pas fait partie des gens qui ont été véritablement déçus. Hein. Je trouvais que c'était tout à fait dans la lignée de cette espèce de tiédeur gouvernementale, mais en effet ce communiqué est presque un chef-d'œuvre du genre, hein, tant il donne l'impression de dire, alors qu'en réalité il ne dit pas grand-chose. Gilles Manceron a rappelé tout à l'heure le fait que la seule personne qui était désignée comme responsable était Maurice Papon, ce qui n'est pas très difficile, hein, de cristalliser les haines sur Maurice Papon, parce qu'évidemment peu de gens aujourd'hui oseraient réhabiliter Maurice Papon, donc le désigner uniquement comme responsable à quelque chose quand même d'extrêmement réducteur et vise en réalité au consensus, hein, plutôt qu'à la reconnaissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même dans ce texte, et peu de gens l'ont dit, dans la deuxième partie du texte en tout cas, une mise en équivalence des violences, hein, de la violence du côté français, mais aussi de la violence du côté FLN. Hein, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais il y a quand même écrit qu'il y a eu des violences des deux côtés et que donc maintenant, hein, il faut en finir avec ça. Alors ça, c'est typiquement aussi la rhétorique de non-reconnaissance de la spécificité de la violence coloniale. Hein, c'est quelque chose qui est une stratégie un peu de refroidissement, c'est-à-dire le fait de refuser que la violence coloniale soit structurelle et de refuser qu'elle est absolument incomparable avec la violence mobilisée du côté du FLN et du côté donc de ceux qui étaient attaqués plutôt qu'attaquants. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est particulièrement problématique. Et puis, on aurait sans doute aimé, en tout cas les militants de la reconnaissance de cet événement aimeraient aussi que ce qualificatif de massacre d'État soit désormais véritablement assumé. Et il faut quand même le dire, je vais juste terminer par ça, mais dans les logiques mémorielles, dans les stratégies mémorielles, il y a vraiment des politiques d'apaisement lorsqu'il y a reconnaissance. Hein. Et cet apaisement, il aurait été particulièrement bienvenu aujourd'hui, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure sur la manière avec laquelle les questions de passé colonial, de racisme, tout ça est aujourd'hui imbriqué pour donner des débats délétères dans la société française. Donc il y avait une place, il y avait véritablement la place de l'apaisement et Macron n'a pas su saisir cette perche.
Allez-y, Gilles Manceron.
Oui, alors en effet, il y a tout à fait une timidité à dire les choses véritablement. Il a lancé, avant d'être élu président, Emmanuel Macron, des formules à l'emporte-pièce sur crimes contre l'humanité. Et puis après, il se rend compte que dans la politique française, dans la société française, c'est beaucoup plus compliqué de faire passer une volonté de fin d'un déni concernant la période coloniale et ses violences. Donc, voilà la situation dans laquelle on est.
C'est tout un courant qui est opposé à une certaine forme de repentance de la part de la République. On entend souvent ce
mot. Voilà, alors le mot repentance est mis en avant par ceux qui s'opposent à tout travail de reconnaissance comme un épouvantail, comme un repoussoir. Hein. Moi, je ne me revendique pas du concept de repentance. Je pense que c'est un travail d'histoire, un travail de reconnaissance, un travail de vérité, de justice, si on peut encore pratiquer la justice tant de temps après. Mais en tout cas, je n'emploie pas le mot de repentance. Mais enfin, certains l'agitent pour s'opposer à tout travail de reconnaissance. Et dans la société française, ces forces-là sont, semble-t-il, ascendantes. Et les choix politiques d'Emmanuel Macron dans la perspective des élections présidentielles de 2022 s'orientent plutôt vers une tentative de capter cet électorat de l'extrême droite, de la droite, enfin voilà. Donc, c'est un peu contradictoire avec un travail de vérité véritable sur le passé colonial de la France.
On voit que le passé historique, les enjeux mémoriaux sont quand même, dès lors qu'ils arrivent dans un contexte politique, sont forcément tirés à gauche ou à droite. Il y a une union de ces deux intérêts. Instrumentalisation dont les sens sont complètement divergents.
Ça dépend parce que si on compare par exemple avec ce qu'a fait Chirac en 95 lorsqu'il a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, on voit bien que là c'est quand même un procédé qui avait réussi justement à dépasser les positions partisanes, et d'ailleurs c'est un homme de droite hein, qui fait ce discours. Il y a aussi des gens qui réclamaient l'équivalent du discours de Chirac de 95, qui reste un moment dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France, qui reste un moment particulièrement fort, et on voit bien que là ça coince. Parce qu'il s'agit du passé colonial et qu'en réalité, ce n'est pas simplement des questions d'histoire. Ce qui est en jeu aussi, c'est des questions très présentes, très actuelles, notamment liées à la place du racisme dans la société française et à la place de l'islam aussi dans la société française. Il faut quand même appeler un chat un chat. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tous ces débats particulièrement délétères, nauséabonds, autour de la supposée non-intégration des populations musulmanes et blablabla, tout ça en fait remue aussi un passé colonial qui ne passe pas, comme disait l'autre, et on voit bien que c'est parce qu'il s'agit de la question coloniale que ces avancées qui sont réclamées par les camps plutôt progressistes n'arrivent pas à se faire.
Et notamment, elle est aussi omniprésente dans l'imaginaire français, cette guerre d'Algérie, avec ses enjeux mémoriels, et notamment dans le cadre de l'école. Comme c'est souvent, on a l'impression, quand on entend des enseignants et des enseignantes, l'idée d'un sujet délicat à enseigner à l'école, entre celles et ceux qui regrettent justement que ce sujet soit absent dans les programmes scolaires, du moins en tout cas pas aussi présent qu'il devrait l'être, et puis celles et ceux qui estiment que la question franco-algérienne ne fait pas partie quelque part des fondamentaux de l'histoire de la France au même titre que la Révolution française.
Oui, tout à fait. Alors, il y a vraiment une histoire de l'enseignement de la guerre d'Algérie. Il y a plusieurs choses qui peuvent être dites à cet égard. D'abord, il ne faut pas penser qu'on enseignait moins la guerre d'Algérie avant qu'aujourd'hui. Je dirais presque que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde les vieux manuels scolaires, enfin vieux, on va dire, du début des années 80, même de la fin des années 70, donc c'est vraiment de l'histoire immédiate, vous avez la mention et parfois de la guerre, du mot lui-même, de la guerre d'Algérie dans certains manuels, et parfois de manière extrêmement franche. Vous avez aussi la mention de la torture en Algérie, avec la responsabilité des militaires français. Moi, ça, je l'ai trouvé dans des manuels de 1983. Vous avez la mention de certains massacres, en particulier, tout à l'heure, on parlait des massacres de Sétif. Ils sont dans certains manuels du début des années 80. Le premier sujet au bac sur la guerre d'Algérie, c'est 1984, Et à l'époque, on donnait une chronologie. Et dans la chronologie, il y a la première date, c'est 8 mai 1945. Donc, c'était déjà présent, on va dire, de façon assez franche. Mais comme le sujet n'était pas politisé dans la société, beaucoup de gens, et c'est normal, ne se souviennent pas forcément de l'avoir abordé, même d'ailleurs peut-être certains profs ne l'ont pas fait, etc. Mais ce n'était pas un tabou. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est que plus le sujet s'est politisé dans l'espace public, et plus la question de la guerre d'Algérie est devenue un contenu d'enseignement sur lequel le ministère de l'Éducation a commencé à devenir très vigilant. Voilà. Et s'est dit, oh là là, attention, est-ce que ce n'est pas un sujet chaud? Est-ce qu'il vaut mieux pas l'enseigner de cette manière-là, le retirer de chez les tout-petits, le mettre un petit peu au collège, le mettre un petit peu au lycée? Et là, on a observé à partir des années 90 des stratégies, en fait, autour de la question de la guerre d'Algérie. Parmi les stratégies, je vous en donne deux. Première stratégie de refroidissement, eh bien, on va mettre la guerre d'Algérie dans le thème sur les décolonisations. Et puis ensuite, on va le remettre un tout petit peu dans le thème sur la 4e République, mais pas sur la 5e République. Donc évidemment, si on ne met pas la guerre d'Algérie dans la 5e République, on va avoir du mal, par exemple, à étudier le 17 octobre 61. Vous voyez ? Autre stratégie de refroidissement, ce que je disais tout à l'heure, bah, dans un manuel scolaire, vous allez avoir une double page sur les violences coloniales, mais vous allez avoir la page de gauche consacrée aux militaires français et la page de droite consacrée au FLN. Avec une totale mise en équivalence entre les deux. Voilà. Et tout ça prouve que dans ces années 90 et encore plus dans les années 2000, la question de la guerre d'Algérie devient un contenu d'enseignement, un sujet qui est particulièrement brûlant. Alors là, on parle des programmes, mais on ne parle pas de ce qui se passe concrètement dans les classes, parce que ça, c'est aussi un autre problème. Concrètement dans les classes, on n'a pas d'enquête véritable qui puisse nous dire aujourd'hui si c'est un sujet chaud ou si ça ne l'est pas. On a autant de restitutions de cours dans certains quartiers ou dans certains territoires qui disent que finalement, en gros, hein, pour le dire de manière simplifiée, bon, c'est des cours qui se passent aussi mal que les autres ou aussi bien que les autres, que parfois les élèves s'ennuient. Voilà. Et puis, on a en revanche des témoignages de cours où là, c'est un petit peu plus, musclé, hein, avec des élèves qui arrivent et qui sont eux aussi dans une logique de reconnaissance mémorielle. Mais ce n'est pas forcément généralisé. C'est très difficile de savoir si c'est véritablement un sujet brûlant ou pas. Je crois qu'il est davantage brûlant dans l'institution et dans les débats publics plutôt que dans les classes.
Gilles Manceron, ce sera malheureusement le mot de la fin de cette émission. L'Algérie scolaire, ce n'est pas un contenu scolaire comme les autres?
Non, ce n'est pas effectivement. C'est rentré avec retard. Il y a plus de délai entre l'événement lui-même et son enseignement dans les classes de collège ou de lycée que pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Le délai est plus long pour son début d'entrée dans les années 80, en l'occurrence. Et par ailleurs, il est toujours considéré comme un sujet supposé problématique, difficile, que, y compris d'ailleurs les enseignants, ont tendance à ne pas privilégier quand ils ont le choix de l'aborder en prenant soit la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ou la mémoire de la guerre d'Algérie, comme c'était le cas encore récemment. C'est un sujet qui est considéré comme difficile, mais cette difficulté de la société française à regarder en face le fait colonial et certains de ces épisodes, il est vraiment problématique. Moi, dans un article que j'ai envoyé à un quotidien algérien, j'ai mentionné le film de Michael Haneke, Caché, qui porte justement sur l'hypocrisie. Hein, c'est son thème, et dont on comprend assez vite que l'une des formes de l'hypocrisie qu'il désigne, c'est l'hypocrisie autour du 17 octobre 61. C'est un film qui a été peu décrypté dans toutes ses dimensions par la critique lorsqu'il a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Enfin, il y a une hypocrisie française qui me semble multifactorielle et qui est aussi le résultat d'un matelas de propagande coloniale qui s'est accumulé au fil du 19e siècle et au début du 20e, et qui a influencé des secteurs de la gauche. On rappelait que les déclarations Macron-Chirac, dont on se félicite, ne sont pas l'œuvre d'hommes politiques de gauche, c'est quand même un problème. Pourquoi la gauche est aussi, n'est pas à la manœuvre en pointe dans la désignation de ce phénomène qui a des conséquences différées aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes. Hein. On n'est pas dans une société coloniale en France, mais on en a les traces.
Et c'est sur ces mots qu'on va malheureusement se quitter pour ce nouvel épisode de Penser les luttes. Je vais remercier nos invités. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation sur le plateau de Radio Parleur. Laurence Decoq, je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes historienne et enseignante. Vous êtes impliquée depuis le milieu des années 2000 dans les débats publics concernant justement les utilisations médiatiques et politiques de l'histoire et plus particulièrement du fait colonial en France depuis le 19e siècle. On recommande à nos auditeurs et à nos auditrices d'aller lire vos ouvrages et particulièrement celui sur l'enseignement de l'histoire publié aux éditions Libertalia. Gilles Manseron, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. On le rappelle également pour nos auditeurs, nos auditrices, vous êtes historien et spécialiste du colonialisme français. Vous avez été rédacteur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme, Hommes et Liberté. Et parmi les nombreux livres que vous avez publiés, il y a notamment Algérie, Comprendre la crise, c'est aux éditions Complexes, ou encore Les Harkis dans la colonisation et ses suites. Et ça, c'est aux éditions de l'Atelier. Une émission préparée par Martin Dufaux de Radio Parleur qui s'est aussi emparé de la console pour faire la réalisation ce soir à l'animation Tristan Goldbraun. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, jeudi 4 novembre. Cette fois, on vous parlera de la COP26 et des actions entreprises par la société civile pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une émission qui sera réalisée avec le magazine Politis et le Média Basta, radicalement indépendant. Et pour retrouver les émissions et les entretiens de notre chaîne de podcast Penser les luttes, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming et toutes vos applis téléphones dédiées au podcast. Et désormais, vous pouvez même vous inscrire sur notre newsletter, la Lettre des Luttes. À très bientôt sur Radio Parleur.
We have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out.
Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM. Du lundi au vendredi à 18h. Mardi, art et culture, rencontres, promenades, découvertes.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Laurence Decoq et Gilles Manseron discuter de la mémoire collective que porte le 17 octobre 1961, date d'une répression meurtrière par la police française d'une manifestation d'Algériens à Paris. Vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur le site de Jet FM ainsi que sur celui de Radio Parleur et diverses plateformes d'écoute. À suivre dans l'immédiat, l'émission musicale Florilège. Bonne soirée sur Jet.